Alors nous qui faisons ces conférences, nous sommes des chrétiens qui nous voulons accepter que ce nom, c'est-à-dire le nom de chrétien, et qui nous voulons suivre que le Christ comme chef spirituel et la Bible comme autorité religieuse. Nous sommes des membres d'assemblées de chrétiens formant des églises du Christ, et les quatre conférenciers viennent des assemblées de Dijon, de Lyon, de Grenoble et de Genève. Alors dans ces conférences, nous allons examiner quelques doctrines des témoins de Jéhovah à la lumière de la Bible. Dans quel but? Pour vous montrer à quel point les témoins, qui d'ailleurs ne sont pas les seuls, se sont égarés de la vérité de Dieu. Alors nous faisons ceci dans un seul but, d'amener les témoins à la vérité et aussi d'avertir et de toucher ceux qui seraient susceptibles d'être influencés par leur enseignement. Alors, certains d'entre vous ont reçu une lettre dans laquelle ceci a été dit. Quels sont nos motifs? En premier lieu, l'amour pour Dieu et pour la sainteté de sa parole. En second lieu, notre préoccupation au sujet des témoins qui sont des victimes, nous le croyons fermement, d'une série accablante de fausses doctrines. Et en troisième lieu, la nécessité absolue, étant donné l'enjeu, de vérifier toute chose dans le domaine des doctrines religieuses, ainsi que nous l'enseigne la Bible. Alors dans le livre « Que Dieu soit reconnu pour vrai », édité par la Tour de Garde en 1948, nous lisons ceci. Les témoins dénoncent sans ménagement les faux principes de toutes les religions. Ils dévoilent leurs théories blasphématoires et les traditions humaines préjudiciables à la vérité contenue dans la Bible, qui est la parole de Dieu. Mais jamais ils n'attaquent les irresponsables gens de bonne volonté qui ont été aveuglés et réduits à l'esclavage spirituel pour avoir ajouté foi aux fausses doctrines d'une religion quelconque. Les hommes de bonne volonté montrent leur appréciation de l'amour manifesté par les témoins de Jéhovah en étudiant la Bible avec eux. En personnes honnêtes, ils désirent servir Dieu. La dénonciation des erreurs religieuses ne les scandalise pas et ne sont pas davantage troublés par la révélation des sublimes vérités bibliques. Et maintenant, les choses sont renversées. C'est-à-dire que nous désirons faire appel aux témoins de se montrer des hommes de bonne volonté, des personnes honnêtes qui désirent servir Dieu, des gens que la révélation des sublimes vérités bibliques ne scandalise pas. Et nous leur demandons, par ces conférences, de montrer leur appréciation de notre amour en étudiant la Bible avec nous. Les quatre hommes qui présenteront ces conférences ont voué leur vie au Christ et à sa parole. Et c'est à cette parole qu'ils auront recours pour prouver ce qu'ils diront. Ensuite, vous prendrez évidemment vos propres décisions et vous serez vous-même, comme nous, responsables. Il ne s'agit pas d'un débat. Par conséquent, si vous avez des questions à poser aux conférenciers, vous pouvez le faire après la conférence. Je crois qu'on aura le temps pour ça, suffisamment de temps. Et vous pouvez aussi, bien sûr, choisir des traités, des brochures qui sont ici exposées. C'est tout cela est gratuit. Alors, avant que vous soyez endormis ou fatigués, je vais passer la parole à Charles pour son étude sur la divinité du Christ.
Je voudrais dire tout d'abord que je suis très content d'être ici ce soir avec vous, même si nous ne sommes pas très nombreux pour le moment, et que je le considère comme un très grand honneur de me tenir devant vous pour parler de la divinité du Christ. Ce que je vais dire, je le dirai de toutes mes forces et de tout mon cœur, parce que je le crois de toutes mes forces et de tout mon cœur. Mais la véracité d'une chose n'étant pas la garantie, n'étant pas garantie par la conviction de celui qui la croit, je n'essaierai pas de vous faire croire quelque chose parce que moi je la crois, ça c'est évident. Ce serait d'ailleurs trop naïf. D'ailleurs, qui suis-je ou qui êtes-vous pour décider ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas? C'est Dieu qui est la vérité, et c'est dans la parole de Dieu que la vérité se révèle. Or, c'est dans cette parole de Dieu que je trouve un enseignement sans équivoque concernant celui qui s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous, le Christ loin, Jésus sauveur, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Seigneur, le premier et le dernier. Et cet enseignement sans équivoque, c'est que Jésus-Christ a toujours été, est aujourd'hui et sera toujours Dieu. Et j'ai donc l'intention de vous montrer que la Bible, loin de nier cette divinité, la souligne encore, l'annonce plutôt, et souligne d'un bout à l'autre. Je voudrais être sûr que vous compreniez dès le début que quand je dis que Jésus-Christ est divin, ou quand je dis qu'il partage la divinité de Dieu, je veux dire qu'il est Dieu. Et si vous jugez que cette précision est un peu superflue, je vous signale que, pas plus tard qu'avant-hier, je parlais avec un témoin qui me disait qu'il croit que Dieu, que Jésus est divin, mais il ne croit pas qu'il soit Dieu. Vous voyez qu'il y a une nuance là qui n'est pas admissible ni par la définition du mot divin ou du mot divinité ou du mot Dieu, ni par le contexte dans lequel ces mots sont utilisés dans la Bible. Ce qui est divin est Dieu, et Dieu est le seul qui est divin dans le contexte des Écritures. Vous avez reçu une feuille qui montre le plan de cette étude ce soir. Rassurez-vous, nous n'allons pas regarder tous ces passages d'Écriture qui sont marqués là-dessus. Mais nous allons quand même regarder en détail ce qui se trouve dans les deux premiers points, doctrine des témoins et évidence directe. Nous avons là des évidences directes de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est divisé entre les témoignages de Jésus-Christ sur lui-même, ensuite d'autres témoignages à son sujet, dans les Évangiles et dans les Actes et les Épîtres. En troisième point, évidence indirecte, et là nous allons voir une série de passages. C'est là où nous ne verrons pas tous les passages, mais nous choisirons un passage dans à peu près chaque catégorie pour vous montrer un exemple de ce que j'essaye de vous montrer là. Et puis à la fin, nous allons garder ce mot Kyrios, qui veut dire en grec Seigneur, ce qui a été fait avec ce mot, notamment dans la traduction des témoins de Jéhovah, la traduction du Nouveau Monde. Si quelqu'un pourrait maintenant couper la lumière et mettre la machine en marche, on va commencer avec les diapos. Encore une ? Je ne sais pas laquelle. Il y en a trois. Ça va comme ça ? Tout le monde peut voir l'écran ? C'est même mieux. Voilà. Nous allons d'abord noter à partir de quelques déclarations officielles la position des témoins sur ce sujet. Bien évidemment, les témoins n'acceptent pas que Jésus-Christ soit Dieu. La tour de garde enseigne que le Christ est plutôt une puissante créature spirituelle ou une créature supérieure, la principale œuvre du Très-Haut qui le créa le premier. L'ayant créé le premier, Dieu a ensuite fait de lui son maître ouvrier, dont il s'est servi dans la formation de tous ses autres ouvrages. Jésus a donc eu, selon les témoins, un commencement. Quant à son identité, la voici. Il était appelé dans les cieux, disent-ils, Michaël, un des principaux chefs. Il s'agit de l'archange, Michaël ou Michel. Ce Michaël qui s'élève avec son armée pour combattre le dragon et ses anges dans le 12e chapitre de l'Apocalypse n'est nul autre que Jésus-Christ glorifié et intronisé. Ils vont plus loin encore. C'est un Dieu. Dans le passage de Jean chapitre 1 verset 1, ils traduisent dans leur traduction que la parole, c'est-à-dire le Christ, était Dieu, des minuscules. Dans la version anglaise, on dit même un Dieu. Je laisserai à plus tard l'examen des applications de cette traduction. L'erreur des témoins dans le domaine de la divinité du Christ n'est pas du tout récente. Déjà, au IVe siècle, un nommé Arius et ses disciples avaient promulgué la même idée que le Christ ne fut pas l'égal du Père, qu'il avait été créé, et que les termes de Dieu ou de Fils de Dieu appliqués à Jésus n'étaient que des titres et non des qualités. Arius disait par exemple, il n'est pas Dieu de lui-même, mais participation à la grâce. Il est appelé Dieu en nom seulement. Au Concile universel de Nicée en Bithynie, en l'an 325 après Jésus-Christ, auquel ont assisté 318 évêques, dont celui de Grenoble, on a renoncé à cet enseignement et Arius a été banni. Les témoins disent que c'était plutôt l'empereur païen et non l'évêque de Rome qui a décidé que, et je cite, Pareille conception de la divinité serait désormais la doctrine de l'Église officielle chrétienne. Arius, disait-il, avait brandi l'épée de l'esprit contre la Trinité, nullement fondée sur les Écritures. La doctrine de la Trinité, toujours selon les témoins, ne fut conçue ni par Jésus, ni par les premiers chrétiens. C'est plutôt l'invention d'un certain Théophile, évêque d'Antioche, dans la seconde moitié du IIe siècle, et d'un de ses contemporains, Tertullien de Carthage. Ces hommes avaient introduit dans leurs écrits les termes « trias » et « trinitas », d'où vient notre terme français « trinité » et la doctrine qu'ils représentent. Cette doctrine, disent les témoins, est une manœuvre de Satan, inspirée des Babyloniens et absolument étrangère au véritable christianisme. Les Écritures n'en font aucune mention. Ni le mot « trinité », disent-ils encore, ni même l'idée qu'il exprime ne se rencontre dans la parole de Dieu. Je m'arrête à ce point-là pour faire quelques clarifications. D'abord, dire que le mot « trinité » ne se trouve pas dans la Bible est une chose. En effet, c'est tout à fait exact. Le terme ne s'y trouve pas. Ce qui, au point où nous en sommes, ne prouve rien. Je n'ai qu'à demander aux témoins si le mot « théocratie », auquel ils tiennent beaucoup, se trouve dans les Écritures. Il n'y est pas non plus, évidemment. Dire ensuite que la doctrine ne trouve aucun support dans les Écritures est absolument faux, et ces conférences, surtout celle-ci et celle de demain matin, comptent vous le montrer. Et une troisième clarification, par la grâce de Dieu, je ne déciderai pas ce que la Bible dit suivant la décision formelle, ni d'un concile, ni d'un empereur, ni d'un pape, ni d'une tour de garde, mais suivant ce que je peux discerner pour moi-même. Et en lisant la Bible, je vois des évidences très nettes et très claires, indiquant que le Christ qui est descendu vers la terre pour apporter le salut aux hommes était le même Dieu qui promettait ce salut depuis des siècles. Nous allons les considérer maintenant, ces évidences que j'ai appelées nettes et claires dans la Bible. Je vous signale que les passages, à moins que je vous le signale autrement, les passages que nous allons voir sont tirés de la version seconde de la Bible. Regardons d'abord l'évidence de l'Ancien Testament. Qu'il soit noté que la liste de passages que je vais vous montrer n'est pas du tout une liste exhaustive, qu'elle ne représente pas du tout la totalité des passages qu'on pourrait appeler en témoignage à la divinité du Christ. Nous n'en verrons que quelques-uns, les principaux d'entre ces passages. Mais je voudrais vous montrer que le Messie qui devait venir devait être Dieu lui-même, devait être divin. Vous avez devant vous le passage d'Ésaïe chapitre 9, verset 5, où il est dit « On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix ». Ce texte est reconnu comme étant messianique, c'est-à-dire comme ayant référence au Messie qui devait venir. Les témoins l'acceptent ainsi. Il faut regarder les termes qui sont utilisés ici, les titres accordés à cet enfant, que l'on reconnaît comme étant l'enfant Jésus qui devait naître. Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Je suggère en premier lieu que si cet enfant n'est pas Dieu, ses titres sont pour le moins blasphématoires. Dieu seul peut s'accorder ces titres-là. Notons surtout le Dieu puissant et le Père éternel. L'expression Dieu puissant ne veut pas dire qu'il est Dieu, disent les témoins, parce qu'il n'est pas dit qu'il est le Dieu tout-puissant. Je trouve ce raisonnement un peu étrange, mais c'est là l'explication officielle de cette expression. Il n'est pas dit qu'il est le Dieu tout-puissant. Mais même si nous l'acceptons, ce raisonnement, notons que l'expression que nous trouvons ici traduite Dieu puissant, El Gibor, se trouve ailleurs dans la Bible, pour désigner sans erreur possible l'Éternel, celui que les témoins appellent Jéhovah. En voici un exemple, Ésaïe chapitre 10, verset 1. Le reste reviendra, le reste de Jacob, au Dieu puissant. C'est le même mot dans la langue originale qui est utilisé dans ce passage pour appeler le Christ Dieu puissant. En ce qui concerne le nom Père éternel, je reviens donc à cette cliché. En ce qui concerne le nom Père éternel, la tour essaye de diminuer son importance en disant que Jésus sera le Père des fidèles lors de son règne glorieux sur la terre et dans les cieux. Ce qui explique à peine le côté Père et pas du tout le côté éternel de ce terme. Ce qui ou celui qui est éternel a toujours existé. Ce qui a été créé peut être immortel, mais pas éternel. Jésus-Christ est Père éternel. Le nom de Père lui appartient. Dans Isaïe, chapitre 40, verset 3, nous avons cette prophétie messianique, elle aussi. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'éternel, le chemin de l'éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Notez ici que la voix crie qu'il faut aplanir le chemin devant l'éternel, c'est-à-dire devant Dieu. L'accomplissement de cette prophétie se trouve en Matthieu 3, verset 3, où il est dit que la voix qui devait crier ces choses était celle de Jean-Baptiste. Or, de qui Jean-Baptiste a-t-il préparé le chemin ? Il a préparé le chemin de Jésus-Christ, alors que la voix de Jean-Baptiste devait préparer le chemin de l'Éternel. Malachie, chapitre 4, verset 5, est également une prophétie qui est accomplie en Jean-Baptiste. Dans cette prophétie, écrite à peu près 400 ans avant Jésus-Christ, c'est Dieu l'Éternel qui dit qu'il enverra son messager qui préparera le chemin devant lui, l'Éternel. Ce messager devait s'appeler Élie. Jésus dit dans Matthieu 11, 14 que Jean-Baptiste est l'Élie qui devait venir. Si vous voulez le comprendre, dit-il, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Cet Élie devait annoncer, je vous rappelle, le jour de l'Éternel. Or, Jean-Baptiste a annoncé le jour du Christ. Ou bien, regardez la prophétie de Malachie, chapitre 3, verset 1. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, dit l'Éternel. Il préparera le chemin devant moi. Or, ce messager est venu, il s'agit toujours de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, le messager, a préparé le chemin devant Jésus-Christ. Le psaume 45 est reconnu comme étant messianique, surtout puisque l'auteur de la lettre aux Hébreux dans le Nouveau Testament reprend ce passage pour le citer comme preuve de la prééminence du Christ. Il est dit ici, dans le verset 7, « Ton trône, ô Dieu, est à toujours ». La traduction littérale de cette phrase est « Ton trône, le Dieu, indéfiniment ». Ainsi, la plupart des traducteurs mettent « Ton trône, ô Dieu ». La Septante, traduction grecque de l'Ancien Testament, citée par l'apôtre dans Hébreux 1, 8, dit « Le trône de toi ». Ô Dieu. Une tournure analogue apparaît dans le psaume 146, verset 10, où il est dit « Ô Dieu, ton Dieu, ô Sion ». Et en Hébreu 1, 10, « C'est toi, ô Seigneur ». La traduction reconnue comme la plus correcte est donc, comme il est fait ici devant vous, « Ton trône, ô Dieu ». Mais évidemment, dans les deux cas, c'est-à-dire dans ce cas-ci du 45e psaume et dans le cas du livre des Hébreux où il a été cité, ce passage, les traducteurs du Monde Nouveau, c'est-à-dire la traduction des témoins, ont dû trouver une solution de remplacement. Ils ont fini par mettre « Dieu est ton trône ».« Dieu est ton trône », ce qui est une traduction aussi gratuite que fantaisiste, et qui n'est pas du tout autorisée par le texte. Dans le passage de Hébreux 1, 8, l'auteur cite la prophétie du psaume 45 pour l'appliquer au Christ. « Dieu, le Père, dit au Fils, ton trône, ô Dieu. » Quand le monde nouveau change le sens de la phrase, il crée non seulement une dénaturation de la phrase, mais aussi un blasphème, car, et notez-le bien, il rabaisse Dieu au rang d'un trône destiné à un petit Dieu, à un ange ou à un fils de Dieu. Zacharie, chapitre 11, verset 13. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Ici, l'Éternel s'identifie fermement avec celui qui sera trahi et vendu au prix de 30 pièces d'argent, cet argent qui a servi à acheter le champ du potier, dans le 27e chapitre de Matthieu. Ce passage ne se comprend pas si le Messie n'était pas Dieu sur la terre. Vous regardez le passage de Zacharie, chapitre 12, verset 10. « Ils tourneront leurs yeux vers moi qu'ils ont percé. » L'évangéliste Jean rappelle ce passage en Jean 19, 37 à propos du Christ cloué à la croix. Or, le texte de Zacharie identifie le verset très nettement à l'Éternel lui-même. Vérifiez-le vous-même en lisant les versets 1 à 10 de ce même chapitre, chapitre 12 de Zacharie. Il y a ensuite la prophétie de Michée, chapitre 5, verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour de l'éternité. Celui qui naîtra à Bethléem est donc celui dont l'origine remonte au jour de l'éternité. On ne peut pas parler ainsi d'un être qui a été créé. Ce que le peuple d'Israël espérait et ce que leur prophète voulait, c'était que Dieu lui-même descende sur la terre pour régler les problèmes de son peuple. En effet, Ésaïe dit dans ce passage que vous avez devant vous, « Ô Dieu, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. » Et l'Éternel, comme pour répondre à cet appel, dit à travers le prophète Zacharie, « Voici je viens et j'habiterai au milieu de toi. » J'habiterai au milieu de toi, c'est l'Éternel qui parle. Ces paroles nous rappellent, et je crois fermement que ce n'est pas un accident. Ces paroles nous rappellent celles de l'apôtre Jean dans son évangile, chapitre 1, verset 14, où il est dit que la parole, c'est-à-dire Jésus, a été faite chair et elle a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire. Les Juifs s'attendant à ce que Dieu vienne sur la terre ont pourtant rejeté Jésus-Christ. Pourquoi ? Justement parce qu'ils ne croyaient pas en sa divinité. Ils ont vu en lui un homme extraordinaire, un grand prophète, mais un homme tout de même, un charpentier qu'ils connaissaient tous. Comment un homme, se disait-il, peut-il être Dieu ? C'est là la question que se posent les témoins aujourd'hui. Les Juifs n'ont pas vu la réponse qui a été pleinement accordée à leur question. Et vous savez où ils en sont aujourd'hui. Les témoins non plus n'ont pas vu la réponse évidente. Et ils sont ainsi coupables du même péché envers le Père que les Juifs. Et l'évidence est toujours là. Jésus a dit un jour à la foule, « Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Jean chapitre 8, verset 24. Cette phrase est parfois traduite « ce que je suis, si vous ne croyez pas ce que je suis ». Mais la traduction correcte est « que je suis, si vous ne croyez pas que je suis ». Ainsi, beaucoup dépend de notre attitude envers Jésus-Christ. S'il est Dieu et nous nions sa divinité, nous nous mettons au-dessus de lui et nous le jugeons sans en avoir le droit et cela à notre perte. Les témoins ont même dit au sujet du Père que ceux qui nient sa divinité sont sujets à la condamnation au sujet du Père. Et si Jésus-Christ est Dieu, la même condamnation pèse sur ceux qui l'auront nié. Nous allons passer maintenant au Nouveau Testament pour voir quelques témoignages de Jésus-Christ lui-même sur son propre sujet. Si nous croyons qu'il était sans péché et qu'il a enseigné une morale sublime, nous considérerons que les déclarations qu'il a faites sur lui-même sont valables et véritables. Les témoins nous disent que Jésus ne s'est pas dit « Dieu ». Les Juifs, d'ailleurs, disent la même chose. « J'espère vous montrer qui s'est bien au contraire dit Dieu dans les termes les plus précis pour ceux qui étaient prêts à l'accepter. Il est nécessaire pour nous de regarder ce qu'il a dit dans un contexte, dans le contexte de l'époque, le contexte de son temps. Et loin de nier sa divinité, Jésus l'a affirmé, et cela à beaucoup de reprises, en s'identifiant sans complexe aucun, à l'Éternel Jéhovah. Ces affirmations se trouvent pour la plupart dans l'Évangile de Jean, et nous allons en regarder quelques-unes. D'abord Jean chapitre 5, verset 19, « Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Les témoins ne citent d'habitude que la première partie de ce verset, qui dit « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » Ce qui montre sa soumission au Père, mais pas du tout une infériorité au Père. S'il était inférieur au Père, Il n'aurait pas pu dire la fin de la phrase « Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement ». Chapitre 8, verset 42. « C'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Ce qui sort de Dieu est divin. Ce qui vient de Dieu est divin. » Chapitre 8, verset 58. « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Nous en reparlerons tout à l'heure. 10, 30. « Moi et le Père, nous sommes un. » Le fait que ce qui est en question ici dans ce passage n'est pas une union d'esprit avec le Père, comme disent les témoins, mais une identité partagée avec le Père est prouvée par le fait que quand Jésus a prononcé cette phrase, « Moi et le Père, nous sommes un », les Juifs ont pris des pierres pour le lapider, déclarant que « Toi qui es un homme, tu te fais Dieu ». Si se dire « un » avec le Père voulait dire être en union d'esprit avec lui, et non pas identité intime avec Jéhovah lui-même, cette accusation de blasphème devenait sans aucun fondement. Sans aucun fondement. Celui qui me voit, chapitre 12, verset 45, celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Jésus enseignait ici que, et comme ont fait ses apôtres après lui, que le titre de la divinité appartenait aussi bien à lui qu'à son Père, et que c'était un phénomène réciproque et interchangeable. Et cette idée est approfondie dans les passages suivants. « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Excusez-moi. « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Qui avait-il vu? Mais le Christ. Le fait de voir le Christ est l'équivalent d'avoir vu le Père. Je vous répète que ce qui est en question ici, c'est l'identité du Christ. Et il s'identifie ici très formellement avec Jéhovah. Je sais que la Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Je sais aussi que Jésus est en train de dire ici que si vous m'avez vu, vous avez vu Dieu. Nous devons donc prendre les deux déclarations dans leur contexte et décider, d'après le contexte, que personne n'a jamais vu Dieu dans toute sa gloire. Parce que Jésus a dit à ceux qui étaient devant lui à cette occasion que s'ils avaient vu Jésus-Christ, ils avaient vu le Père, donc ils avaient vu Dieu. Ils s'identifient donc absolument avec l'Éternel. 14.9, celui qui m'a vu a vu le Père. Encore la même idée. Ceci comme réponse à la demande de Philippe de leur montrer le Père. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Pour être certain que tu viens de Dieu, tu n'as qu'à nous montrer le Père. Et cela nous suffira. Jésus dit, et je crois que sa réponse est très importante, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment, dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Vous remarquerez que tout ceci est donné comme une réponse à une demande par Philippe de leur montrer, non pas une union d'esprit, mais de leur montrer une personne, une identité. Il voulait montrer une identité. Et il a montré cette identité en disant que si vous avez vu le Christ, vous avez vu le Père. Jésus déclare ici que la personne qu'ils veulent voir, c'est lui. C'est de la pure folie cela, dans la bouche d'une simple créature, même si c'est la plus grande créature de la création, mais tout à fait normal dans la bouche de Dieu. Quand Jésus dit qu'il est dans le Père et que le Père est en lui, le grec dit bien « dans » et « en ». La traduction des témoins au sujet duquel j'aurai beaucoup à dire ce soir a sérieusement atténué la pensée ici en mettant une interprétation à la place d'une traduction. Elle met « en union avec le Père ».« En union avec le Père ». Ce qui n'est pas du tout la même chose et pas non plus ce que dit le texte original. On a pris donc une très grande liberté avec le texte, ce qui est une des caractéristiques de cette traduction. Nous en verrons plusieurs autres exemples dans le courant de cette étude. Dans le passage de Jean, chapitre 8, verset 58, un passage très important pour ce que nous considérons ce soir, Jésus se trouve devant les pharisiens naturellement incrédules, qui posent la question, verset 53, « Qui prétends-tu être ?» Qui prétends-tu être ? Voilà ce qui est tout à fait à propos pour cette étude. Et vous remarquerez, aussi bien dans cette étude que dans votre étude de la Bible, qu'il est souvent question de l'identité du Christ. Qui es-tu ? Qui prétends-tu être ? Jésus répond d'abord, verset 54, qu'il est glorifié par le Père. Il annonce ensuite, verset 56, qu'Abraham a tressailli de voir son jour. Et les Juifs offensés répliquent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Et voilà que Jésus prononce les paroles que vous avez devant vous avant qu'Abraham fût, « Je suis ». Là-dessus, dit l'Écriture, ils ont pris des pierres pour les jeter contre lui. Je vous pose la question, pourquoi ont-ils voulu le tuer pour l'avoir prononcé ces paroles? Qu'est-ce qu'il a dit au juste? Eh bien, ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit qu'il était Dieu. Il vient, en prononçant ces paroles, de se déclarer Dieu. Il a dit ce que personne n'osait dire. Personne, sauf Dieu. Le « Je suis » prononcé par l'Éternel à Moïse en Exode 3, 14, était un nom sacré de Dieu. En osant prendre sur ses lèvres ces paroles, ce nom, devant les Juifs, Jésus a très clairement revendiqué son éternité, donc sa divinité. Les Juifs ont très bien compris. C'est pourquoi ils ont voulu le tuer. Et les témoins ont très bien compris aussi. C'est pourquoi dans leur traduction de la Bible, bien que le grec dit bien « je suis au présent », ils ont carrément changé les mots et le temps du verbe en mettant « j'étais ». J'étais. Et je vous suggère que s'ils se sont sentis obligés de changer le verbe, c'est qu'ils voyaient très bien le sens de cette déclaration du Christ. Une situation analogue se trouve au chapitre 26 de l'évangile de Matthieu, où Jésus est interrogé par Caïphe, le grand prêtre. Celui-ci est vraiment à bout de nerfs. Et il dit dans le verset 63, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Eh bien, qu'il soit noté en passant que Caïphe est en train de demander à Jésus de déclarer s'il est, oui ou non, Dieu. C'est le sens de sa question. Pour Caïphe, comme pour tout juif, se dire fils de Dieu voulait dire se dire l'égal de Dieu, voulait dire participer à la divinité. Je vais vous montrer ce que je veux dire. Regardez cette déclaration des Juifs dans Jean 5, 18, où il est dit que les Juifs avaient décidé de le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal de Dieu, ou égal à Dieu. Il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Au procès de Jésus devant Ponce Pilate, dans Jean 19, verset 7, les Juifs déclarent « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » De quelle loi s'agit-il ? Eh bien, la loi en question est la loi contre le blasphème, qui se trouve en Lévitique 24, verset 16, et qui condamne ceux qui blasphémeraient le nom de l'Éternel.